Bon matin, Église Le Sentier. Mon nom est Dominique et je suis un des pasteurs ici à l'Église. Je suis vraiment content d'être avec vous pour prendre un temps dans la parole de Dieu. Avant de débuter le discours de ce matin, j'aimerais vraiment prendre un temps pour adresser les événements des dernières semaines. Les événements qui ont débuté avec la mort de George Floyd, cet homme noir qui a été tué par un policier aux États-Unis. Nous voulons prendre un temps ce matin pour affirmer que nous nous opposons au racisme et à toute forme d'injustice. Comme Église, nous voulons supporter ceux qui vivent des injustices. On veut pleurer avec ceux qui pleurent et nous rappeler que Dieu est un Dieu juste, qui aime ce qui est bien et qui déteste ce qui est mal. Église Le Sentier, mon souhait, notre prière, c'est que on puisse être un modèle dans notre communauté d'amour et d'unité. Pour beaucoup d'entre nous, une façon dont on peut mettre en pratique cet amour est simplement d'écouter. Écouter pour mieux comprendre la souffrance et la colère des autres autour de nous. Parfois, il s'agit d'écouter sans donner de solution, mais seulement pour essayer de comprendre et supporter l'autre, pour grandir dans notre amour pour notre prochain. À nos frères et sœurs noirs qui souffrent présentement, à vous qui êtes découragés, et en colère, nous vous aimons et nous voulons souffrir avec vous. Devant autant d'injustices, encore une fois, mis à découvert. Et ce matin, j'aimerais seulement dire que je pense que si on veut s'unir ensemble dans l'amour, si on veut s'unir ensemble dans la joie, mais je pense qu'on est vraiment dans un contexte, dans la série qu'on est en ce moment, vraiment dans un contexte particulier et vraiment propice pour pouvoir s'unir autour de ce que l'auteur aux Hébreux nous rappelle constamment et ce dont nous sommes rappelés depuis quelques semaines, que Jésus est meilleur que tout. Que Jésus est meilleur que tout. Et certainement, dans ces temps difficiles, on veut se tourner vers lui. Se tourner vers lui pour notre confort. Se tourner vers lui pour nos questions, se tourner vers lui pour notre colère, notre souffrance. On veut se tourner vers Dieu, Jésus, parce que la parole de Dieu nous enseigne que Jésus est meilleur que tout. Et vous savez, le livre aux Hébreux a été écrit dans ce contexte où des gens souffraient, où des gens remettaient en question Jésus, l'Évangile, le christianisme. Parce que ces gens souffraient, parce que ces gens étaient exposés à de la persécution, parce que ces gens étaient exposés à des difficultés. Et l'auteur prend le temps d'écrire cette lettre grandiose qui rappelle à maintes et maintes reprises comment Dieu est meilleur que tout ce qu'il connaissait. Comment Jésus est meilleur que tout ce qu'il connaissait. Comment est-ce que Jésus était comme était le summum de tout ce qu'on leur avait dit, de tout ce qu'on leur avait annoncé. Et que malgré la persécution, malgré la souffrance, Jésus était présent dans leur vie. Jésus était là. Que malgré l'injustice, Jésus pouvait leur donner de l'espoir, Jésus pouvait leur donner de l'amour. Et que Jésus pouvait certainement, tout d'abord, régler leur problème numéro un, notre problème numéro un, qui est le péché qui est dans notre cœur. Et on peut avoir cette relation avec lui. Et la semaine passée, on a vu ce beau passage qui nous incite à entrer dans le repos de Dieu. D'entrer dans la présence de Dieu. Et comment est-ce qu'on est dans la présence de Dieu? Mais c'est quand qu'on vit, on reconnaît que Jésus est mort pour nos péchés, que Jésus nous a sauvés et qui nous permet d'entrer dans une vie d'obéissance où on choisit d'obéir à Dieu, de chercher à vivre une vie d'obéissance, c'est-à-dire chercher ce que Dieu aime et faire ce que Dieu aime. Chercher ce que Dieu n'aime pas et dénoncer ce que Dieu n'aime pas et ne pas faire certainement ce que Dieu n'aime pas. Et ce qu'on voit, c'est que quand on reconnaît dans nos vies que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, qu'il nous a donné une nouvelle vie, qu'il nous a transformés, qu'il nous a sauvés d'une mort éternelle de souffrance sans lui. Quand on reconnaît ça, c'est un événement dans nos vies qui nous donne une nouvelle identité, qui nous permet d'entrer dans le repos de Dieu. Mais ce qu'on voit aussi et ce qu'on expérimente dans notre vie, c'est que toute notre vie sur Terre, on continue à lutter avec la souffrance, on continue à lutter avec le péché, on continue à avoir des difficultés dans nos vies. Et Dieu nous appelle constamment à poursuivre cette vie d'obéissance. Et ce passage qui a débuté au chapitre 3, Hébreux chapitre 3, on le voit se terminer ici dans Hébreux chapitre 4, les versets 12 et 13. Cette section qui nous parle de l'obéissance, d'entendre la voix de Dieu et d'entrer dans son repos. Et si je peux juste relire les versets, mais je vais relire le verset 11 qu'on a vu la semaine passée et jusqu'au verset 13. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Empressons-nous à rentrer dans son repos. » Et comme pasteur Norman nous a enseigné la semaine passée, de persévérer à faire le bien, de chercher à faire le bien, de chercher à obéir à Dieu, de chercher la volonté de Dieu. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est qu'on a cette invitation à rentrer dans le repos. On est appelé à chercher à entrer dans ce repos, à chercher à obéir, mais que ce commandement, cette demande-là est tellement douce, est tellement léger, parce que Jésus nous a donné l'obéissance. Et ça, on a vu ça la semaine passée, mais Jésus nous a donné l'obéissance et il nous a donné, Dieu nous a donné quelque chose de vraiment précieux, qui est sa parole. Cet outil, et on va voir ce matin que c'est plus qu'un outil, qui nous permet d'entretenir cette relation avec Dieu et cette vie d'obéissance. Et je veux lire les versets 12 et 13. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. J'aimerais juste prendre un temps pour prier ce matin, prier pour chacun d'entre nous. Et prier que Dieu puisse ouvrir nos cœurs pour qu'on puisse entendre sa parole, parce que Dieu nous parle. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton amour pour nous. Seigneur Jésus, on le sait depuis toujours, il y a des gens qui souffrent dans le monde. Nous avons tous goûté à la souffrance, Seigneur. Et on le voit aujourd'hui spécialement avec l'injustice raciale qui est dénoncée partout dans le monde. À quel point des gens souffrent d'injustice. À quel point des gens souffrent parce que d'autres ne les considèrent pas comme ils sont. Parce que des systèmes tout entiers ne les considèrent pas comme ils devraient être considérés. Seigneur, je te prie de nous inciter à l'amour, de nous inciter aux bonnes œuvres, de nous inciter à l'écoute de ta parole et à l'écoute de notre prochain. Seigneur Jésus, incite-nous à poursuivre l'unité dans ton Église. Et je pense et je suis convaincu qu'on a besoin de ta parole pour poursuivre l'unité. On a besoin de ton Évangile pour poursuivre l'unité. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Montre-nous comment chacun d'entre nous, individuellement, on a besoin d'être transformé pour aimer notre prochain, pour pouvoir contribuer au changement dans ce monde, un monde qui a désespérément besoin de toi. Seigneur Jésus, sois avec nous ce matin et parle à nos cœurs. C'est dans ton nom que je te prie. Amen. Donc ce matin, on veut regarder ensemble comment est-ce que la parole de Dieu est efficace? Et c'est vraiment une belle façon de finir ce discours où est-ce qu'on est incité à entendre la voix de Dieu et à aller dans le repos de Dieu. Cette incitation dans nos vies à entendre la voix de Dieu, à écouter Dieu, à être sensible à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Donc ce matin, on va voir que la parole de Dieu, tout d'abord, elle est vivante et efficace. Et si elle est vivante et efficace, c'est parce que, et je suis convaincu que la plupart d'entre vous, vous savez ça, mais c'est ici ce matin que tu considères la foi chrétienne. On croit vraiment que ce livre, la Bible, la parole de Dieu, est bien plus qu'un livre. C'est plus qu'un livre. Et souvent, certainement, aujourd'hui, on est habitué, on a la Bible, on la lit. Donc, c'est quelque chose, c'est un effort, c'est une activité de lire. Mais en réalité, lire la parole de Dieu, c'est écouter Dieu qui nous parle. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. En fait, la parole de Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant qui agit en nous. Et c'est ce que l'auteur veut nous dire ici. Depuis le début, on est appelé à chercher cette relation-là avec Dieu, à chercher cette relation avec Jésus. Et ici, on voit qu'encore aujourd'hui, dans nos vies, sa parole, donc Dieu, agit avec puissance en nous. Donc, pour comprendre le caractère de la parole de Dieu, c'est important de comprendre le caractère de Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Et Dieu est capable d'agir en nous. Alors, quand l'auteur nous dit, en effet, vous pouvez rentrer dans le repos. Vous pouvez prendre part au repos de Dieu parce que Dieu et sa parole ont cette efficacité-là d'agir dans vos vies. N'est-ce pas merveilleux? L'apologète chrétien Ravi Zacharias, qui est décédé il y a quelques semaines maintenant, qui a passé sa vie à aider aux gens à comprendre l'Évangile et à défendre la foi chrétienne d'une manière incroyable. Si vous allez voir sur Internet, vous allez voir tous les témoignages de pasteurs, de gens, de personnes qui ont été impacté par le ministère de Ravi Zacharias, cet homme qui avait un cœur pastoral, qui s'intéressait non pas seulement à faire comprendre les arguments bibliques, mais que les gens puissent y goûter, que les gens puissent goûter à la parole et à l'Évangile de Jésus. C'était un homme extraordinaire. Et un jour, il a raconté cette histoire. Oui, il était au Liban avec un évangéliste libanais et ils étaient dans une voiture. Ils partaient, il y avait des boîtes, plein de boîtes de Bibles, dans la voiture. Ils allaient porter des Bibles à des gens qui ne connaissaient pas Jésus dans un autre village. Et en chemin, à cette époque-là, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait une occupation syrienne et les Syriens étaient assez hostiles. Leur occupation était difficile dans le pays du Liban. Et je vais juste vous lire un peu l'histoire qu'il raconte. Zacharias et le pasteur conduisaient dans une camionnette qui était chargée de boîtes de Bible qu'ils transportaient dans une autre ville où un effort était fait pour atteindre les gens avec l'Évangile. Il raconte sa grande anxiété alors qu'il s'arrêtait à un poste de contrôle militaire et qu'un soldat syrien leur a collé un fusil au visage. Et il leur pose cette question, « Qu'est-ce qu'il y a dans cette vanne? » Zacharias était horrifié lorsque l'évangéliste avec qui il était a répondu, « Oh, il y a juste des boîtes de dynamite ici dans la voiture. » Moi aussi, je pense que j'aurais eu peur. Puis remettant au soldat choqué l'une des Bibles, le pasteur audacieux a expliqué, « Voici de quoi je parle. » Lisez ceci et il entrera dans votre vie avec la puissance de Dieu. La parole de Dieu est vivante et active. C'est de la dynamite spirituelle envoyée par Dieu dans un monde d'obscurité avec le pouvoir de surmonter chaque forteresse de péché et d'opposition humaine. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante. Parce que Dieu est vivant et Dieu est puissant. Dieu est un Dieu qui transforme. Dieu est un Dieu qui nous accompagne. Dieu est là. Et la parole de Dieu, c'est d'abord et avant tout Dieu qui nous parle par son Fils Jésus. On le voit dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Puis la parole s'est faite chair, elle est venue dans ce monde et elle a donné sa vie pour qu'on puisse voir la lumière. Dieu nous transmet le message de l'Évangile. Et encore une fois, dans le livre aux Hébreux, on voit à maintes reprises cette exposition-là de se tourner vers Jésus, celui qui est mort pour nous, celui qui a donné sa vie, celui qui est meilleur que nos conceptions, celui qui est meilleur que notre façon de voir la vie, celui qui est meilleur que nos efforts pour le bonheur et pour la joie, le meilleur, celui qui est le meilleur pour nous consoler dans la souffrance, celui qui est meilleur pour venir pardonner nos péchés, c'est le meilleur, c'est le seul qui peut le faire. Et Jésus, Dieu, nous parle par son Fils Jésus. La parole de Dieu, la Bible, elle est exprimée dans un langage de Dieu qui envoie son Fils donner sa vie pour ceux qui sont perdus, pour pouvoir restaurer l'humanité. C'est vraiment grandiose de voir que quand on considère la parole de Dieu, on voit un Dieu qui accomplit une œuvre de transformation en nous et qui nous offre du repos. Un Dieu qui nous offre la réconciliation. Un Dieu patient qui nous accompagne. Alors, quand on pense à la parole de Dieu, frères et sœurs, je nous encourage à ne pas considérer ça comme un livre qu'on est en train de lire, mais comme une relation qu'on est en train de développer. Une relation initiée par Dieu. Une relation qui est puissamment poursuivie par Dieu. L'amour, c'est pas le fait que j'ai aimé Dieu en premier, mais que Dieu m'a aimé le premier. La parole de Dieu, c'est Dieu qui se révèle par amour pour nous. C'est Dieu qui veut, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort, donc on doit justement mourir à cause de nos péchés, mais c'est Dieu qui dit « La justice est accomplie à la croix quand Jésus meurt pour toi. » C'est un Dieu qui poursuit une relation avec nous. Et c'est ce Dieu qu'on nous présente ici. Un Dieu qui nous parle par son Fils Jésus, par l'Évangile. Un Dieu relationnel. Et une relation qui est initiée par Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Parce que je vais peut-être le répéter à quelques reprises. Mais parfois, on va lire la Bible. On va lire la Bible avec une super attitude de vouloir grandir et de vouloir connaître Dieu. Mais voici notre attitude. On lit la Bible en se disant, mais si cette Bible-là, c'est ça la parole de Dieu, je dois faire ce qu'elle dit, je dois obéir à ses commandements, je dois faire les choses. Et là, quand je ne le fais pas, je me sens mal. Quand je le fais, je me sens bon. Et le problème avec ça, c'est que c'est vraiment centré sur notre puissance à développer notre relation avec Dieu, alors que la Bible nous indique tout le contraire. Alors que oui, on est appelé à travailler pour notre sanctification. Alors que oui, on est appelé à persévérer dans le repos de Dieu, la Bible nous rappelle que la puissance se trouve dans le message de l'Évangile de Jésus qui est mort pour nous. Je ne suis pas un bon chrétien parce que j'arrive à lire ma Bible. Je ne suis pas un bon chrétien parce que j'arrive à mettre en application ces choses-là. Non, l'Évangile me dit que je suis incapable de faire ça sans Dieu, sans l'intervention divine de Dieu dans ma vie. Et la parole me rappelle constamment l'Évangile, parce qu'à chaque jour, j'ai besoin constamment de me rappeler de ce que Jésus a fait pour moi pour que je puisse être capable d'obéir. La puissance de l'Évangile ne se trouve pas dans ma capacité d'obéir, mais dans la capacité de Dieu de me donner son obéissance. Et c'est ça le message de la parole vivante qui veut nous transformer. On le voit ici, si je fais juste relire... au verset 12, on a vu la parole de Dieu vivante et efficace parce que c'est le caractère de Dieu. C'est qui est Dieu? La parole de Dieu, c'est Dieu. Elle est plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et tout ce que cet exemple-là nous dit, cette illustration de cette épée qui est un double tranchant, qui peut tout séparer, qui peut tout atteindre, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que la parole de Dieu a le pouvoir de transformer tous les aspects de ma vie. La parole de Dieu, elle juge. C'est-à-dire que quand je lis ou quand je connais la parole de Dieu, quand je connais Dieu, je vois dans le miroir mon propre péché, ma propre orgueil, mon propre besoin de transformation. La parole de Dieu, elle juge et elle nous transforme. Alors que quand je reconnais ma culpabilité, quand je reconnais mon égocentrisme, quand je reconnais ma rébellion, quand je reconnais mon manque d'amour, la parole de Dieu a ce pouvoir de me rappeler que je suis aimé, que Jésus est mort pour moi et que je suis pardonné. Je n'ai qu'à, comme on a vu la semaine passée, me repentir du péché dans ma vie pour pouvoir avoir la foi dans ce que Dieu dit et dans ce que Dieu fait et que je puisse vivre cette vie d'obéissance. Alors oui, la parole de Dieu transforme toutes les parties de nos vies. Elle a cette efficacité-là d'atteindre toutes les parties de mon cœur, de ma vie. Et c'est pour ça que nous devons, et je viens un peu d'en parler, mais comprendre le message central de la Bible et de sa parole. Mes enfants ont un livre qui s'appelle, c'est l'histoire où, j'oublie toujours le nom, je ne suis pas capable de me le rentrer dans la tête, mais toutes les histoires racontent son nom. Toutes les histoires murmurent son nom. Et je vous dis, quand j'ai lu ces livres avec mes enfants et que je vois que dans tout, au travers de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on voit clairement comment est-ce que chaque histoire de la Bible nous pointe vers Jésus qui va secourir l'humanité. On nous pointe vers un espoir qu'un jour, il y a quelqu'un qui va venir pour sauver les meubles, sauver l'humanité. Et c'est vraiment cette histoire qu'on voit partout dans la Bible. La Bible nous montre qu'on a été créé bon, parfait, sans tâche, sans aucune difficulté relationnelle, sans aucune difficulté entre humains. Personne ne détestait personne. Personne ne détestait Dieu. Personne n'essayait d'être Dieu et tout le monde connaissait sa place dans le monde. Dieu avait mis des désirs dans l'être humain. L'être humain désirait être aimé. L'être humain désirait être connu de Dieu, d'être connu des autres. L'être humain avait de la valeur, connaissait cette valeur-là. L'être humain était en sécurité dans le jardin. Il n'y avait personne qui vivait de l'insécurité ou de l'injustice. Tout était parfait. Et l'histoire nous raconte que le péché est venu dans le monde par la désobéissance de l'être humain à Dieu. L'être humain qui a décidé savoir ce qui est bon, décider ce qui est bon plutôt que d'écouter ce que Dieu dit. L'être humain qui s'est retourné vers lui, qui a cherché son propre plaisir, sa propre gloire et ses propres moyens pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Et au moment où est-ce que le péché est entré dans le monde, ce qu'on a vu, c'est les difficultés relationnelles, la honte devant Dieu, la honte devant le péché. Les êtres humains se blâmaient entre eux. On commence à ressentir de la haine. Tout est détruit. Tout a été affecté par le péché. Et nos vies sont affectées par le péché. Nos désirs ne sont pas remplis. On cherche par toutes sortes de moyens à accomplir, à pouvoir être rempli dans nos désirs, mais ça ne fonctionne pas. Mais le message de l'Évangile, c'est alors que nous avons été créés dans un monde parfait, qu'il y a un monde. Ce monde-là a été déchu, détruit par le péché, par la désobéissance, par la rébellion. Dieu envoie son Fils pour nous restaurer, pour nous sauver, pour sauver les meubles, pour pouvoir nous réconcilier avec lui-même. Pour qu'un jour, on puisse vivre pour toujours dans son repos, sans péché, sans tâche. Et je suis certain que si tu entends ça pour la première fois ce matin, tu rêves à un tel monde. Tu rêves à ce qu'on j'ai parlé au début, qui était le jardin d'Éden, où tu rêves à ce monde où un jour, il n'y aura plus de difficultés, où il n'y aura plus rien. Où il n'y aura plus de tuerie, où il n'y aura plus de divorce, où il n'y aura plus de parents qui ont de la difficulté à entrer en relation avec leurs enfants, où qu'il n'y aura plus d'injustice qui va nous être commis. Tu rêves au jour où est-ce que tout le monde va pouvoir être uni dans l'amour, se comprendre et s'aimer et chercher ensemble à aimer Dieu. Mais c'est ce que la Bible nous parle, c'est le message central des Écritures. Et quand on lit la Bible, on peut toujours lire la Bible et voir ce que Dieu a fait pour nous. Comment est-ce que Dieu est venu régler le problème du péché? Et alors que des fois, c'est très bien, on rêve, on a ce rêve de changer le monde, mais Dieu, lui, est venu pour... La manière que Dieu est venu changer le monde, c'est par son Fils, pour que chaque personne puisse réaliser leurs besoins de la grâce, leurs besoins de l'amour du Père, leurs besoins de pardon, et surtout de réaliser que chaque être humain est rebelle à Dieu, et chaque être humain cherche son propre bonheur à sa manière, selon ses propres conceptions. Et la parole de Dieu, c'est ce livre qui nous mène au repos, à l'obéissance, qui nous rappelle ce qui est bien, ce qui nous rappelle ce que Dieu a fait. Et à chaque fois qu'on regarde à l'Évangile, tout ce qu'on voit, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'appelle à le faire pour les autres. Et on voit que, comme on a vu, la Bible nous juge, la Bible nous juge nos péchés, juge notre incrédulité, juge notre rébellion, mais la Bible nous pointe toujours vers l'Évangile. Et ce qui nous mène à l'obéissance. Chacun d'entre nous aujourd'hui, je nous invite à ne pas regarder autour de nous, mais regarder à l'intérieur de notre propre cœur et de regarder où est-ce que j'ai besoin d'obéissance, parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace pour atteindre ton cœur et t'amener à l'obéissance. Vous voyez, notre relation avec la Bible, c'est pas juste moi. Oui, Dieu nous appelle à la lire, mais à la connaître, à la lire, à l'écouter. Il nous appelle à nous réunir ensemble pour pouvoir en parler. Dieu nous appelle aussi à ce que quand on se parle les uns les autres, qu'on puisse vraiment avoir ces conversations-là qui nous pointent vers Jésus, qui nous pointent vers l'Évangile et qui nous ramènent à notre besoin constant de Jésus et de l'Évangile. De cette manière-là, dans nos vies, on peut connaître Dieu par sa parole et ce que la Bible nous enseigne. Dieu nous parle pour nous transformer, pour nous amener à aimer notre prochain davantage. Nous amener à aimer notre prochain. La Bible, c'est pas un livre qui nous appelle à avoir plus de connaissances, quoique on a besoin de connaître pour obéir, mais c'est pas le but ultime de la Bible, d'avoir plus de connaissances, mais certainement plus d'obéissance. Et quand on lit la parole, quand on écoute la parole, quand on entend un message de la parole de Dieu, quand on parle entre nous, c'est pour s'amener tout d'abord à l'obéissance. Si je prenais un concept vraiment simple qui est d'aimer son prochain, c'est clair dans la Bible que la Bible nous dit « aime ton prochain ». Et si on entend dans toutes les prédications ou à chaque fois qu'on lit la Bible ou à chaque fois qu'on est dans un petit groupe, on dit « hey, à chaque fois on parle d'aimer notre prochain », on le sait. On devrait apprendre des nouvelles choses parce qu'on sait qu'il faut aimer notre prochain. Posons-nous la question. Je sais qu'il faut que j'aime mon prochain, mais est-ce que j'aime toujours mon prochain comme Dieu m'appelle à l'aimer? La Bible me montre ma désobéissance, mon orgueil. On le voit avec le peuple d'Israël qui est toujours cité en exemple comme un peuple qui oubliait toujours ce que Dieu avait fait pour eux et qui n'avait pas besoin toujours de la grande nouvelle connaissance, mais qui avait besoin de l'Évangile, qui avait besoin d'un Dieu qui sauve, un Dieu qui pardonne pour pouvoir être rétabli et réconcilié avec ce Dieu-là. Et c'est ce qu'on a besoin pour que Dieu nous transforme. Je sais que je dois aimer mon prochain, mais bien souvent, j'ai de la difficulté à aimer mon prochain. Il y a quelque temps, un de nos voisins nous a invités à venir dans leur cour pour pouvoir prendre un verre avec eux, pouvoir discuter avec eux. Et puis, un soir, qu'on aurait pu très bien le faire, je me souviens, je me disais, on y va-tu ce soir, on le fait-tu? Puis, tout de suite, j'étais comme, je suis fatigué, j'aime mieux relaxer. Puis, moi, souvent, le soir, c'est ça, tu sais. Puis, peut-être, il y en a d'autres qui sont comme ça. J'aime mieux relaxer, j'aime mieux, c'est le temps là, que je peux écouter la télé avec mon épouse, puis qu'on peut passer du temps ensemble. Puis là, je me mettais à rationaliser, puis en réalité, ça ne me tentait pas. Mon confort était là, puis il n'était pas là-bas. Mais là, je réalisais après, je me mets à réfléchir, pas ce soir-là, parce que ce soir-là, je ne suis pas allé, mais j'y ai repensé après, et à ce que Dieu me dit d'aimer mon prochain, et pour nous, pour moi et ma femme, on se dit, on se pose cette question-là, c'est qui notre prochain? Et on veut vraiment que notre prochain soit les gens dans notre quartier. Et on veut être dans la vie de ces gens-là, on veut les connaître, on veut les aimer, on veut pouvoir avoir des relations avec eux. Et là, des fois, il y a des moments où est-ce qu'on est fait face à est-ce que je vais aimer l'autre, prendre du temps avec lui quand il a envie de passer du temps avec nous, ou l'aider, ou le supporter, prier avec, pleurer avec, comme on a dit tantôt, ou est-ce que je vais juste m'asseoir dans mon confort. Et j'ai réalisé à ce moment-là, je sais que j'ai besoin d'aimer mon prochain, mais je ne suis pas capable de le faire toujours. Et la parole de Dieu nous rappelle que comment je peux être paresseux, comment je peux être centré sur moi. Elle me juge, elle me montre mon péché, elle me montre mes fautes. Mais elle me rappelle aussi que Jésus est sorti de son confort puis a donné sa vie pour que moi, je puisse avoir la vie éternelle. Et c'est cet amour-là qu'il y a eu envers moi, qui déverse en moi, qui me permet d'aimer mon prochain. La parole de Dieu nous transforme. Elle est efficace pour nous transformer. La Bible nous rappelle constamment qu'on a besoin de vivre une vie, pas une vie parfaite, de performance spirituelle et de discipline spirituelle. Et quoi que j'admire, et je suis tellement heureux pour tous ces gens qui ont ces disciplines spirituelles, les gens de prière, les gens qui aiment la parole de Dieu. Et j'admire ça, c'est pas ce que je suis en train de dire ici. Mais par contre, il faut sonder notre cœur, pourquoi on fait les choses qu'on fait. Parce que ma relation avec Dieu devrait davantage être définie par la repentance, la foi, l'obéissance. Et quand j'obéis, je veux célébrer l'œuvre et la gloire, la grâce de Dieu dans ma vie. Quand j'obéis à Dieu, ce n'est pas par mes mérites, c'est seulement à cause de la grâce de Dieu dans ma vie. Et c'est ce qui devrait caractériser chacune de nos vies, chacune de nos conversations, notre besoin de nous repentir, notre besoin de confesser nos péchés, de nous repentir, de croire en Dieu dans tout ce que Dieu fait et de vivre une vie d'obéissance. Et c'est vraiment intéressant parce que le passage va se terminer avec ce verset qui dit « Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. » Dieu nous voit. Dieu a vu Adam et Ève dans le jardin. Quand ils se sont habillés, il leur dit qui vous a dit que vous étiez nus? Il y a seulement Dieu qui savait ça, qu'Adam et Ève étaient nus. Parce qu'il n'y avait pas besoin de le savoir, parce qu'il n'y avait pas de honte, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de mal. Tout était bon. Mais aujourd'hui, Dieu nous voit encore. Et peu importe comment on essaie de cacher, comment on essaie de couvrir nos fautes, comment on essaie de changer nos habitudes, comment on essaie d'être des bonnes personnes, Dieu voit au travers cette pile-là et il voit nos cœurs. Et j'aimerais nous proposer, frères et sœurs, que c'est quand on reconnaît que Dieu nous voit, que Dieu nous voit comme nous sommes, qu'on peut développer cette humilité de se mettre à genoux et de demander pardon à Dieu pour notre orgueil, pour notre manque d'amour, pour nos jugements, pour les péchés qu'on a commis, pour notre désobéissance, et qu'on peut goûter au repos de Dieu, à l'obéissance. Et ce matin, j'aimerais nous proposer que si on veut avoir un impact dans cette vie autour de nous, on doit nous engager à connaître la parole et s'y laisser transformer. Connaître la parole et s'y laisser transformer. Lire la Bible, en parler. Demander aux gens, qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie en ce moment? Comment est-ce que Dieu est en train de te transformer? Vous savez, des fois, on a besoin d'être ensemble. On a besoin, on a besoin d'être les uns les autres ensemble et s'encourager à obéir à Jésus. Et quand on reconnaît, si on se donne le droit, ce contrôle-là en Église de dire, OK, si la vie chrétienne, c'est une vie de repentance, de foi et d'obéissance, ça veut dire que les gens vont s'attendre que je lutte avec le péché en ce moment. Les gens vont s'attendre que j'ai besoin de la grâce de Dieu et que j'ai besoin d'eux pour m'aider à pouvoir poursuivre dans une relation avec Dieu. Et quand on voit les autres qui ne connaissent pas Dieu, on ne se mettra pas à juger. Moi, je suis vraiment la meilleure personne parce que je connais Dieu. Non, parce que je suis une personne aussi qui a besoin de repentance. Je veux prier pour elle, je veux l'accompagner à connaître Dieu dans l'amour et dans le respect. Si on veut changer le monde, si on veut avoir un impact dans cette vie autour de nous, on doit nous engager à connaître la parole de Dieu et nous laisser transformer par la parole de Dieu qui nous voit et qui voit l'état de notre cœur. Parce que Jésus est meilleur que tout, parce qu'il nous a donné la vie, parce qu'il nous a tant aimés, que nous pouvons aimer notre prochain en retour. Et ce matin, on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Et c'est vraiment un bon temps pour se rappeler ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et comme on a parlé de transformation, d'obéissance ce matin, de ce que Dieu fait dans nos vies, j'aimerais juste vous proposer de prendre un temps ce matin, même si c'est un petit peu plus long que le temps que je parle, de juste prendre un temps de prière puis de remettre à Dieu l'état de votre cœur. S'il y a un péché ce matin dont l'Esprit t'a convaincu, peut-être qu'il y a un verset qui te vient en tête, il y a quelque chose qui te vient en tête, la parole de Dieu que tu viens d'entendre ce matin, la Bible et que tu viens d'entendre ce matin, te convainc peut-être d'un péché dans ta vie, d'une rébellion, d'un manque d'amour que tu as pour quelqu'un, je te prie de confesser ce péché-là à Dieu. De ne pas le laisser, de ne pas l'enfouir, de ne pas essayer d'aller régler ça par plus de ci ou plus de ça ou moins de ci ou moins de ça. Non, Dieu est là pour te transformer. Dieu est efficace, Dieu est vivant. Alors remets ça à Dieu ce matin. De prendre le repas du Seigneur, c'est qu'on veut se rappeler. Hein, Jésus il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. À chaque fois que vous allez prendre ce repas ensemble, faites-le en mémoire de moi. Alors on veut se rappeler ce matin ce que Jésus a fait pour nous. Alors, une des manières qu'on se rappelle, c'est que quand on reconnaît le péché dans nos vies, quand on reconnaît notre incrédulité, on peut le confesser à Dieu, lui demander pardon et croire qu'il est meilleur que tout ce qu'on a essayé pour nous donner ce que notre cœur désire vraiment, pour nous réconcilier, pour nous rétablir avec lui. Et c'est vraiment cette prière que j'aimerais que vous fassiez ce matin et que je vais prier pour vous, pour nous à l'instant. Seigneur Jésus, montre-nous notre cœur. Et ce matin, on veut prendre ce repas en souvenir de ce que tu as fait pour nous. On te remercie pour ta parole qui est là, qui est accessible, qui est présente dans nos vies. Et on te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses nous transformer, continuer de nous transformer par ta parole, par ton évangile. Jésus-Christ, je te remercie que tu sois mort à la croix pour nous. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin, on veut se rappeler ce que tu as fait pour nous. Tu es mort, tu as donné ta vie pour qu'on puisse avoir la vie. Merci Jésus. Amen. Alors mangeons et buvons. Alors, je vous souhaite une bonne journée à tous et on va poursuivre avec un dernier chant de louange. Bon dimanche.